Bonjour Pierre.
Bonjour Doriane.
Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ?
Bien, ouais, donc je m'appelle Pierre Bust. Je suis enseignant-chercheur, c'est mon vrai métier, on va dire. Donc, enseignant-chercheur à l'Université de Caen-Normandie. Je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches en informatique. Voilà. Donc, j'ai fait de la recherche sur les aspects interaction en machine, traitement automatique des langues et environnement de travail des utilisateurs. Et puis ça, c'est du côté donc recherche. Du côté enseignement, je suis surtout sur la pédagogie autour des compétences numériques et mon poste d'enseignant est dans le département LEA de l'UFR des LVE, ce qui est déjà un positionnement un peu particulier parce que c'est de l'informatique pour non spécialistes. Et puis à côté de ça, j'ai dirigé le CEMU, service d'appui à la pédagogie de l'Université de Caen-Normandie pendant presque 10 ans, de 2009 à 2018. Et ensuite, j'étais 2 ans vice-président aux transformations pédagogiques à l'Université de Caen-Normandie. Et puis, depuis 2016, j'ai eu un détachement au sein de la DGCIP au ministère à Paris. J'étais au début dans une mission qui s'appelait la MIPNES, la mission pour la pédagogie et le numérique dans l'enseignement supérieur. Et cette mission-là a évolué. Maintenant, je suis dans un organe qui s'appelle le CCSP, le Collège des conseillers scientifiques et pédagogiques. Et à côté des missions dont je m'occupe dans ce collège-là, je suis chef de projet du dispositif national Campus Connecté.
D'accord.
Donc c'est un peu compliqué.
C'est large. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé vraiment sur les Campus Connectés ? On t'a confié le projet ?
Alors, du temps justement où j'étais à la MIPNES, avant que ça devienne le Collège des conseillers scientifiques et pédagogiques, c'était, là on parle de 2018, la ministre en place, Frédérique Vidal, avait voulu qu'on trouve une solution pour les jeunes qui, dans les territoires, se détournent de l'enseignement supérieur parce que, du coup, pour des tas de raisons, c'est pas forcément simple pour tout le monde d'aller fréquenter un campus en présentiel. Et il y a des endroits où il y a des inégalités d'accès. Et elle voulait qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et évidemment, la solution allait être fortement en appui sur la question du numérique et de la formation à distance. Donc j'avais été avec quelques collègues à lui faire une réponse sur sa commande, qui était de dire justement, il faut qu'on s'allie avec des collectivités locales pour ouvrir des tiers-lieux d'accueil qui permettraient d'accompagner des parcours de formation à distance. Dans toute la formation à distance des établissements de l'enseignement supérieur à l'échelle nationale. Et donc ça a eu plein de noms et au final ça a fini par s'appeler Campus Connecté. Et on a lancé en 2019 une expérimentation avec 13 lieux un peu partout dans le territoire. Et puis après on a eu l'appui du SGPI, donc le Secrétariat Général pour l'Investissement, qui, dans le programme d'investissement d'avenir payé à 3, a dégagé une enveloppe de 25 millions d'euros pour passer à l'échelle un peu plus grande et déployer des campus connectés en un plus grand nombre que 13. Quoi.
Et aujourd'hui, il y en a combien ?
Alors aujourd'hui, là, ouvert, il y en a 87-88, ça se cale un petit peu, mais voilà, il y en a eu 89 de labellisés, il y en a 2 qui n'ont pas conclu à une ouverture parce qu'il y a eu d'autres problèmes. Et donc aujourd'hui, là, on doit être à 87.
D'accord.
Et 87 à peu près partout, hein, dans pas mal de régions, à peu près toutes celles de la France métropolitaine et l'outre-mer aussi. On va jusqu'en Polynésie, à Wallis et Futuna, en Guyane.
Donc, d'accord. Et concrètement, pour l'étudiant, enfin l'apprenant, comment ça se passe ?
Alors, concrètement, un étudiant qui ouvre la porte d'un campus connecté aura toujours au début la même question, c'est quoi les formations que vous avez ici ? Et en fait, c'est pas la bonne question, parce que les formations accessibles depuis un campus connecté, c'est les mêmes pour tous les campus connectés, et c'est l'ensemble de la formation à distance disponible dans l'enseignement supérieur. Même pas que public, parce que pour partie, on peut aussi avoir des étudiants, alors dans une moindre quantité quand même, qui suivent une formation supérieure privée à distance. Mais il y a une contrainte dans le label, c'est qu'au moins 70% des étudiants dans un campus connecté soient inscrits dans l'enseignement à distance supérieur public. Donc le principe, il est le suivant, c'est-à-dire qu'un étudiant, s'il sort du bac et qu'il veut pouvoir faire des études, il fait des choix dans Parcoursup. Et donc dans Parcoursup, il va choisir de la formation à distance. Et dès lors qu'il aura eu une acceptation dans une formation, qu'il aura fait son inscription administrative dans un établissement, bah, il pourra aller voir le campus connecté d'à côté de chez lui pour être accueilli. Et ça, c'est vrai en début de parcours, mais c'est vrai à n'importe quel moment du parcours. Ça ne se fait plus sur Parcoursup, mais ça se fait sur d'autres plateformes avec des calendriers qui dépendent des établissements. Si c'est pour faire un master à distance, bah, aujourd'hui, il faut passer par la plateforme trouvermonmaster.gouv.fr. Et puis ça, c'est la formation, on va dire, diplômante, mais il y a aussi des diplômes d'université qui se font à distance. Il y a des DAU aussi, on a beaucoup d'étudiants, des fois, qui sont dans des configurations de reprise d'études et qui n'avaient pas le bac et donc qui préparent un DAU. On a même en infrabac aussi des capacités en droit, qui sont des diplômes qui ne nécessitent pas forcément le bac, mais qui sont des diplômes de l'enseignement supérieur. Donc il y a une large palette de types de diplômes qui sont déclinés à distance. Et après, pour chacun d'eux, il y a une palette tout au moins aussi large de disciplines et de contenus et d'orientation. Par exemple, si on regarde les licences qui se font à distance, il y a à peu près 60 mentions différentes de licences pour lesquelles on peut trouver une formation à distance quelque part, dans un établissement ou dans un autre. Alors, il y en a certaines qui sont très, 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 très demandées, un peu en tension, genre la psychologie. Et puis, il peut y avoir d'autres mentions beaucoup plus de niche avec un petit peu moins de demande. Je ne sais pas, par exemple, de la théologie, ça se fait à Strasbourg, par exemple, à distance. Et donc l'étudiant, bah voilà, et dès qu'il a sa place dans sa formation, il va pouvoir intégrer le campus connecté et il va être accompagné par un tuteur au sein du campus connecté. Et c'est l'apport principal qu'on lui propose. Mais avant même ça, être dans un lieu pour pouvoir travailler sur sa formation, c'est déjà des conditions meilleures que de travailler sur un coin de table de cuisine chez soi avec toutes les perturbations qu'on peut imaginer. Avoir un temps d'accueil dans un tiers-lieu, et là c'est le cas, on leur demande aux étudiants d'être engagés pour au moins 12 heures semaine. Okay. Ça veut dire qu'on veut un vrai engagement de l'étudiant pour l'amener à sa réussite. Et arriver à sanctuariser dans son calendrier de la semaine au moins 12 heures pour s'occuper de sa formation et pas s'occuper du reste, ça c'est aussi important. Donc rien que ça déjà c'est beaucoup. L'accompagnement en proximité du tuteur c'est énorme, c'est prépondérant largement dans la question de la réussite des étudiants. C'est un accompagnement vraiment de proximité parce que dans le label Campus Connecté, un tuteur ne peut pas s'occuper de plus de 20 étudiants. Donc il y a vraiment une relation vraiment où ils se connaissent bien, ils s'accompagnent. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que le campus connecté, c'est un espace de socialisation étudiante. C'est-à-dire que c'est un petit groupe d'étudiants, parce que c'est des petites structures, ça n'a pas vocation à être très 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 gros. Idéalement une vingtaine ou une trentaine d'étudiants, mais ça peut aller jusqu'à 50-60, mais ce ne sera jamais des gros bataillons. Et donc, c'est des lieux où les étudiants, quelle que soit la formation qu'ils suivent, qu'il y en ait un qui suive une licence d'anglais ou un master de management du social ou des choses comme ça, c'est pareil, c'est des étudiants et ils peuvent échanger ensemble. Donc, on voit dans les campus connectés que l'accompagnement et la socialisation accentuent beaucoup la question des dynamiques d'équipe. Et la méthodologie du travail à distance et l'accompagnement. Donc évidemment, un tuteur qui se retrouve à gérer un campus connecté, s'il a une vingtaine d'étudiants dans 20 formations complètement différentes, dans des domaines complètement différents, il n'est pas omniscient, il ne peut pas amener un savoir sur chacun des contenus disciplinaires. Donc ce n'est pas ça la question. Et pour ça, de toute façon, la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant à distance, elle amène déjà des tuteurs qui sont capables d'accompagner en ligne les étudiants. Donc le tuteur dans le campus connecté, il amène autre chose, il amène un accompagnement administratif, c'est pas simple. Quand on essaie de se raccrocher à l'idée même qu'on peut trouver sa voie dans le supérieur, d'arriver à comprendre comment est-ce que tout ça se constitue. Donc il y a un accompagnement administratif, il y a un accompagnement méthodologique. Il faut savoir travailler à distance, il faut savoir travailler tout court. Des fois, ça peut aller jusqu'à des choses tout bêtes. C'est peut-être que quand tu bosses tes cours, tu retires ta musique dans les oreilles. Tu vas voir, ça marchera mieux. Ça peut aller jusque-là. Et puis, il y a surtout un accompagnement motivationnel et une activité du jour le jour qui est de souffler un peu sur les braises de l'engagement de l'étudiant. Et là aussi, les dynamiques d'équipe sont importantes. Et puis, la culture de l'effort pousser à l'étudiant qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut un petit peu suer à grosses gouttes pour que ça marche, mais qu'il n'est pas tout seul et qu'il va être accompagné par un tuteur et que les autres étudiants autour de lui sont dans la même situation et qu'à plusieurs, ils vont aller plus loin. Tout ça, c'est des choses assez importantes.
C'est les clés de la réussite un peu aussi.
Voilà, et c'est les clés de la réussite dont on voit sur les chiffres que ça pose vraiment. Et ça a un gain assez important. Sur l'année dernière, on a regardé sur les dernières statistiques, là on était à 58% d'étudiants qui avaient validé leur année. D'accord. Donc 58, c'est un petit peu au-dessus des statistiques nationales, on va dire tout présentiel, tout confondu. Il y a à peu près 10% d'étudiants qui sont en réorientation. La réorientation, ce n'est pas un échec. Hein. La réorientation, c'est trouver sa voie et trouver que celle qu'on avait pensée au début n'était pas la bonne. Donc finalement, c'est un parcours de réussite aussi. Donc du coup, si on totalise les deux, 58 et 10, on est à pas loin de 68% de réussite. Donc c'est bien, c'est vraiment des lieux de réussite. Il y a un autre indicateur statistique qui pour moi est presque plus important, c'est que le taux d'abandon sont en dessous de 7%, on doit être à 6,9%. Donc ça veut dire que quand on accompagne des étudiants en campus connecté, eh ben, on réduit les risques d'abandon. Et on sait bien que l'étudiant qui, en tant que tel, a quelques fragilités, qui n'a pas une motivation absolument en béton armé et qui se sent fragile, lui, en formation initiale à distance tout seul chez lui, ça va être compliqué et on les retrouve souvent effectivement dans des situations d'abandon. Là, ici, on a avec les campus connectés un bel exemple d'hybridation, et quand on voit que Hype 13 vise l'hybridation, bah là on a un exemple de formation hybridée, avec de la formation complètement à distance, accompagnée localement en présentiel dans un lieu, et ça démontre effectivement que ça met des bonnes conditions pour la réussite.
Et ces tuteurs, justement, qui sont-ils ? Ce sont des anciens étudiants
Alors c'est très variable, déjà institutionnellement, c'est des agents des collectivités locales. D'accord. Parce qu'un campus connecté, c'est un tiers-lieu porté par une collectivité locale. Donc, après, ce tiers-lieu est labellisé par l'enseignement supérieur, il est cofinancé par la collectivité locale et par l'État via le financement du PIA. Mais au final, c'est un agent d'une collectivité locale. Après, d'où ils viennent, il y a plusieurs profils possibles. Des fois, des gens qui viennent de l'éducation nationale, donc ça nécessite qu'ils aient un détachement de la part du rectorat pour pouvoir passer, mettons, d'un lycée à un campus connecté. Et puis, des fois, ça peut être des étudiants, effectivement, qui se sont spécialisés dans la formation et l'éducation, l'ingénierie pédagogique, qui trouvent effectivement des portes de sortie dans les campus connectés. Et puis ça peut être à peu près tous les profils. Alors je me rappelle dans un campus connecté, une tutrice qui faisait un boulot formidable, et elle en fait, elle avait fait une thèse en histoire. Mais elle m'avait raconté que c'était pas tellement sa thèse en histoire qui au jour le jour était super importante pour elle, c'est qu'à côté elle avait fait de l'athlétisme à haut niveau. Et dans l'athlétisme justement, le goût de l'effort, les dynamiques d'équipe, on retrouve ça très très fort dans le sport de haut niveau. Et c'est ça au final, au quotidien, qu'elle allait pousser aux étudiants dans son campus connecté, dans son accompagnement.
Et à plusieurs reprises, tu as parlé des tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est un tiers-lieu ? Est-ce qu'on rapproche les deux ?
Ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui est assez à la mode, la question du tiers-lieu. La question, c'est de savoir tiers de quoi ? Alors, logiquement, quand on regarde les définitions de ces objets-là, c'est un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu tiers par rapport à deux lieux qu'on connaît bien et qui sont faciles à identifier, le domicile et le lieu du travail. Donc quand on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais qu'on est accueilli ailleurs, ben, on est dans un tiers-lieu. Bon, voilà. Donc là, effectivement, dans cette myriade des tiers-lieux, les campus connectés sont un exemple, mais à côté, on aurait les espaces de coworking, les Fab Labs, enfin, tous ces lieux de participation, d'échange et de projets, ça peut aller jusqu'aux pépinières d'entreprise et des choses comme ça, sont des endroits qui sont pas tout à fait le professionnel institutionnalisé qu'on connaît, surtout pas le domicile, parce que c'est pas facile forcément de mener un projet professionnel à domicile, même un projet d'études. Enfin, bon, le Covid nous a aussi montré ça à double tranchant, hein, donc... Voilà, donc les tiers-lieux répondent à ça. Et là, l'idée des campus connectés, c'était un tiers-lieu au plus près de l'étudiant pour lui permettre facilement de venir dans le campus connecté et d'identifier du temps pour sa formation. Je me rappelle, j'avais discuté avec une étudiante dans un campus connecté qui m'avait dit, ben voilà, moi j'ai 23 ans, là, j'ai eu un enfant très très jeune, donc quand il était tout bébé, je me suis occupé de lui. Maintenant, il arrive à l'école maternelle et je vais retrouver du temps pendant qu'il est pris en charge par l'école pour m'occuper de ma formation que j'avais laissée en plan. Simplement, elle me dit, moi mon problème, c'est que je dois être à l'école le matin à 9h, à midi, à 14h et à 16h. Donc, en dehors de ces heures-là, je n'ai pas de temps disponible, je dois être là et je ne dois pas être ailleurs, mais entre ces temps-là, j'ai du temps pour... Donc, si le campus connecté n'a pas été auprès de chez elle et à côté de l'école de son enfant, ça ne le faisait pas. Bon, voilà. Donc, on peut avoir des choses comme ça qui, en fait, font qu'il y a plein de distances différentes. La distance géographique, la distance socio-économique, la distance culturelle, et puis l'idée même de se dire que l'enseignement supérieur est quelque chose pour soi et pas que pour les autres. Il y a aussi des freins, on va dire, psychologiques et des distances du coup psychologiques qu'il faut pouvoir aplanir, apaiser pour remettre les conditions de la réussite.
Et puis le fait de rester peut-être près de chez soi, ça peut rassurer justement.
Oui, et puis dans un lieu où il n'y a pas grand monde, enfin, oui. On espère que c'est des lieux où il y a du monde, parce que c'est aussi l'objectif, c'est de faire quand même que ça décolle, mais jamais au-delà, comme je disais tout à l'heure, de 50 ou 60 étudiants. C'est-à-dire que c'est des lieux de taille raisonnable, et ce n'est pas les grands amphis où les gens se retrouvent noyés dans la masse, avec des gens inaccessibles qui font cours. Non, ça, c'est souvent ce qu'on entend encore dans l'idéologie commune de ce que c'est que l'université. Mais l'université, elle a énormément changé dans les dernières années. C'est de moins en moins ça. Et en tout cas, les campus connectés, c'est pas du tout ça, pour le coup.
Et du coup, les campus connectés permettent justement d'accéder à l'université, mais à tout âge, en fait.
Ah oui, de toute façon, mais c'est la formation à distance qui permet ça. La formation à distance, elle s'ouvre à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le statut. Enfin, ça dépend comment c'est opéré par les établissements, mais voilà. De ce point de vue-là, les campus connectés sont le relais de comment est-ce que les établissements font de la formation à distance avec des objectifs qui peuvent être des objectifs de formation initiale, de formation tout au long de la vie, et avec plein de possibilités d'organisation, des examens, tarification de la formation, tout ça, c'est des choix d'établissement, et les campus connectés ne remettent en aucun cas en cause ces choix-là.
D'accord. Et maintenant, par rapport au campus virtuel, ce qu'on a campus connecté, tiers-lieu, et campus virtuel, c'est quoi la différence entre les deux?
Ouais, alors le campus virtuel, on pourrait se dire, alors peut-être que c'est des notions qui évoluent en ce moment avec les métavers et les choses comme ça, on va peut-être aller vers encore plus de réalité virtuelle dans les campus virtuels. Pour l'instant, les campus virtuels, c'est des plateformes de pédagogie en ligne, hein. C'est des Moodle, des choses comme ça, et c'est des environnements de travail dans lesquels l'étudiant... passe sa journée à ses ressources, à des contacts avec les autres, à des exerciceurs, à des choses comme ça pour mesurer son apprentissage. Donc voilà, les campus virtuels, c'est tout ce qui s'accompagne aujourd'hui de la formation à distance, dans l'idée où la formation à distance, elle a passé dans les dernières années un changement de modèle assez important, où elle est passée d'un modèle qui était la formation par correspondance, on envoyait des ressources notamment par la poste, et jusqu'à du e-learning complet. Et maintenant, quand on parle de campus virtuel, on est complètement dans le domaine du e-learning. Alors bon, il y a encore quelques formations à distance où on voit que ça se limite souvent à du PDF en ligne. Là, on est encore un peu dans quelque chose qui est un peu au milieu du gué dans la transformation.
D'accord. Les campus connectés, donc c'est un projet qui date d'il y a 3 ans.
Alors, les premiers expérimentaux ont été ouverts en 2019, donc c'est ça, trois ans.
Oui, trois ans, en 2022. Et est-ce que vous avez des retours des étudiants?
Oui, alors on mène des enquêtes à la DGCIP sur les campus connectés, on les suit. Déjà, on s'occupe aussi de la formation des tuteurs, parce que le tuteur C'est un coach pédagogique, mais du coup, ce n'est pas vraiment bien défini. Il n'y a pas de fiche de poste claire là-dessus. Donc, on les accompagne dans l'idée que c'est l'émergence d'un nouveau métier. Donc, on les forme avec différents objets de formation, des MOOC, des webinaires, des choses comme ça. On organise un réseautage entre les différents tuteurs et responsables de Campus Connecté à l'échelle nationale pour qu'ils puissent partager leur point de vue, échanger, se poser des questions et puis partager les réponses. Donc ça, il y a un réseau social, une sphère Weller de la DGCIP qui fait ça. Et puis on organise le plus possible aussi des temps de rencontre. Alors pendant le Covid, ça a été un peu compliqué, on ne l'a pas fait, mais le dernier qu'on a fait, là, c'était en mars dernier à l'Université de Montpellier où on avait réuni tous les acteurs pour qu'ils puissent échanger des pratiques. Et on s'aperçoit qu'ils ont beau être tous sur le même label, la même feuille de route liée au label, il y a des spécificités super importantes. D'un lieu à un autre, on n'a pas du tout les mêmes choses qui sont mises en place et qui peuvent donner lieu à de l'essaimage. Il y a des campus connectés, par exemple, qui s'organisent en petits groupes au sein de leur région. Il y en a d'autres qui intègrent dans leur partenariat des entreprises privées pour pouvoir avoir de la ressource financière un peu en plus de la dotation publique. Il y a des campus connectés qui s'organisent localement avec leur collectivité locale pour aller encore plus loin dans le service rendu à l'étudiant. Je pense à certains, notamment Belleville en Beaujolais, la mairie de Belleville en Beaujolais propose systématiquement aux étudiants du campus connecté un contrat de travail de la mairie. Pour quelques heures semaine, il ne faut pas que ça empiète sur les études, mais c'est typiquement vendre des billets de théâtre ou participer au gardiennage d'enfants périscolaires à l'école, des choses comme ça. Et finalement, c'est bien si la mairie amène un service et aussi donne à l'étudiant l'occasion d'être utile pour sa collectivité. Il y a plein de petites spécificités comme ça, plein de choses qu'on peut voir ici et là qui font qu'ils sont tous un peu différents des fois. Et puis on a aussi des campus connectés qui s'orientent vers un public spécifique, là où d'autres sont tout public. Alors typiquement les sportifs de haut niveau par exemple, on en a un à Font-Romeu dans les Pyrénées qui est avec le CREPS, donc un centre effectivement de formation des sportifs de haut niveau, et donc là on a un public très très identifié. Et puis on en a deux aussi, des campus connectés qui sont très très particuliers, parce que pour le coup déconnectés, qui sont des campus en milieu de la détention, donc un ici à Caen et un à Rennes, avec le centre pénitentiaire des hommes et des femmes à Rennes et le centre pénitentiaire de Caen ici. Et là l'idée c'est d'amener la possibilité d'avoir dans un contexte offline coupé de l'internet une formation à distance sur des plateformes donc qu'on va pousser avec des petits boîtiers qui embarquent des plateformes et qu'on installe dans les salles informatiques des prisons et des centres de détention. Mais du coup ça nécessite des synchronisations, des choses techniquement un peu complexes. Mais voilà, donc on va jusque-là dans le fait qu'au sein d'un même label, on peut avoir des spécificités très fortes. Et finalement, cet ensemble de diversité, c'est plutôt une richesse aussi du dispositif. Après, voilà, maintenant, on est dans un contexte où il faut qu'on fasse attention à faire que les campus connectés soient bien pérennisables. Donc il faut qu'ils trouvent leur place dans leur territoire. Ça, on y travaille, mais les collectivités locales porteuses y travaillent encore plus d'arrache-pied. On demande, c'est un élément du label, que tous les campus connectés soient en lien avec une université de proximité. C'est super important pour leur devenir. Ce n'est pas l'université qui amène la formation, pas que, mais elle amène aux campus connectés la possibilité de développer de la vie étudiante, des services à l'étudiant et après tout... Pour une université, être étudiant dans son territoire, c'est forcément avoir de l'intérêt pour l'établissement. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est important pour accompagner le développement. Et puis il faut qu'on s'occupe aussi des aspects financiers, parce que au-delà de l'aide d'État, le PIA, ça finance pendant 5 ans, avec au bout de 3 ans déjà une évaluation des conditions de développement du lieu. Donc ça veut dire qu'il faut les accompagner pour effectivement trouver des structures qui soient acceptables en termes de coûts, Un campus connecté qui est, dont les étudiants se compteraient sur les doigts de deux mains ou d'une seule, ou encore pire d'une, ce ne serait pas très très pérennisable parce que du coup le coût à l'étudiant serait beaucoup trop fort. Donc il faut les amener à trouver un bon régime de croisière et à maintenir un accompagnement de proximité efficace, à maintenir des taux de réussite, à maintenir des taux d'abandon bas. Voilà, tout ça c'est une feuille de route en tout cas qu'on se donne au niveau de la DGCIP et on travaille vraiment avec eux pour faire que ça se passe bien.
Et du coup, est-ce que vous avez vu des axes d'amélioration, enfin identifier en tout cas des axes, enfin, des choses que vous pourriez améliorer justement pour permettre cette pérennisation des campus?
Oui, alors des choses qu'on peut améliorer... Bah, y a toujours la question de la vie étudiante qui est toujours quelque chose qu'on peut améliorer et là il y a plein de choses qu'on peut identifier qui sont des bonnes pratiques des fois à mettre en œuvre ici ou là. Je pense par exemple le campus connecté de Saintes est en lien avec l'université de La Rochelle et l'université et la collectivité se sont mis d'accord pour organiser un trajet en bus aller-retour tous les 15 jours pour que les étudiants puissent aller de Saintes jusqu'à La Rochelle, avoir une vie de campus, profiter des services de la bibliothèque universitaire, des choses comme ça. Bon, ben ça, c'est une bonne relation entre, comme il pourrait y en avoir plein d'autres ailleurs, entre un campus connecté et son université de proximité. Je pense que dans les conditions de réussite, il y aura l'idée quand même de s'implanter comme des lieux qui n'ont pas nécessairement vocation à grossir trop en nombre parce qu'on en reste toujours sur une question, un public de niche, on ne va pas massifier les campus connectés. Par contre, il faut les rendre pérennisables dans le sens où le coût qui sont les leurs soit des choses qui soient acceptables pour la collectivité et puis essayer d'aller s'adjoindre des partenariats privés. Ça peut être par exemple des clubs sportifs. Si on a un club sportif qui est attractif par rapport à des joueurs, en leur disant, vu que c'est souvent des jeunes, venez et vous aurez la possibilité, parce qu'il y a un campus connecté à côté, de poursuivre des études dans des bonnes conditions, bah, est-ce que du coup le club peut être associé au campus, y compris même financièrement, parce qu'il y a de l'apport de valeur. Il y a des structures privées qui peuvent être intéressées aussi pour aller approcher des étudiants et pouvoir toucher un public. Et puis un campus connecté, peut-être que dans les mois d'été ou que le samedi matin, il y a aussi des espaces d'apprentissage bien pensés qui pourraient être aussi loués à des acteurs privés du territoire pour aller faire de la formation d'équipes de services ou des choses comme ça. Donc il y a plein de choses à inventer sur la multiplication des montages en termes de partenariats et pour trouver un accompagnement de ces structures-là pérennes, quoi.
D'accord. Niveau chiffre, on parle de combien de personnes qui travaillent justement pour les campus connectés à peu près?
Alors là, au niveau chiffre, donc, on est à 87 campus connectés ouverts en ce moment. Le PIA qui les a accompagnés était doté de 25 millions d'euros, donc ça veut dire que les 25 millions, ils vont être consommés dans les 5 ans. Hein, enfin, voilà. On a dans chaque campus connecté un responsable, voire un responsable et un tuteur, voire dans les plus gros, plusieurs tuteurs. Donc là, aujourd'hui, là, quand on avait fait le regroupement des campus connectés à Montpellier, les employés, tuteurs, responsables dans les campus connectés, plus les gens dans les universités de proximité qui étaient en lien avec eux, on avait à peu près 150 personnes. Donc, voilà. Et puis cette année, là, quand on regarde les étudiants qui sont accueillis, on dépasse les 1000. Mais on dépasse les 1000 tout de suite, mais il va encore en arriver d'autres, parce que dans les mois de octobre et de novembre, on a toujours des gens qui arrivent en formation. Alors c'est en général pas les débuts de formation, parce que Parcoursup, le calendrier est déjà passé. Mais on a aussi des gens qui viennent dans les campus connectés pour faire de la formation à distance qualifiante et pas nécessairement diplômante. Suivre des MOOC, se reposer des questions d'orientation, des choses comme ça. Et ça, c'est dans d'autres temporalités que l'année universitaire normale. Donc, on va avoir des étudiants en plus dans les mois à venir, c'est sûr. Bon, voilà, donc on verra combien on en aura au final.
D'accord. Ben, merci pour toutes ces explications.
Merci à vous. Et puis, donc, à bientôt.
À bientôt.